France Inter.
Catherine Cusset, Lucas Fox et Arthur H, bonjour à tous les trois. Si vous étiez un livre, quel en serait le titre, Catherine Cusset ?
Les illusions perdues.
Lucas Fox.
Le grand môle.
Et vous, Arthur H ?
Fureur et mystère.
Ah. Le mot de la langue française que vous préférez, Arthur H ?
J'ai arrivé sur un mot complètement stupide, mais que je trouve génial parce que la forme et le fond sont complètement accordés. C'est con, C-O-N, con. Parce que con, c'est vraiment une impasse. C'est un mot qui n'ouvre aucune porte. C'est con, ça s'arrête, quoi, ça tombe. Et du coup, ça correspond parfaitement au sens du mot. Voilà.
Catherine Cusset.
Ce qui est amusant, c'est que con, quand même, en préfixe, ça veut dire avec.
Hein, oui,
c'est
oui.
Cum latin. C'est toujours le même mot depuis très longtemps. J'adore désarroi. J'adore sa sonorité. Désarroi, j'aime comment ça se termine, c'est ouvert à la fin. Et pourtant, ça désigne un état qui m'est familier. Un état où on est un peu perdu. Voilà, j'aime le désarroi.
Lucas Fox.
Très simplement, la passion.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassen.
Bienvenue dans Etc. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale. Alors déjà parce que c'est la dernière de la saison et surtout parce qu'on voulait célébrer la fête de la musique avec trois invités qu'on adore et qui font le pont entre musique et littérature. Je suis ravie d'accueillir d'abord Catherine Cusset, romancière et lectrice passionnée de Marcel Proust. Dans cette émission où la musique est à l'honneur, j'avais envie de le célébrer lui aussi parce qu'il est sans doute l'un des plus grands musiciens des mots et parce qu'il a consacré de sublimes pages à la musique dans sa cathédrale littéraire à la recherche du temps perdu. Catherine Cusset publie « Ma vie avec Marcel Proust », un texte sensible, personnel, qui interroge le lien profond qu'on peut entretenir avec un écrivain. Et si cette émission donne envie aux auditeurs de lire ne serait-ce qu'un chapitre de la recherche cet été, alors on aura déjà gagné quelque chose. Bienvenue aussi à Lucas Fox, un musicien, un vrai, ex-batteur et membre fondateur d'un des plus grands groupes de rock au monde, Motorhead. Il publie Motorhead In and Out, 50 ans après la création du groupe, une autobiographie saisissante dans laquelle il raconte sa vie sans filtre, la scène londonienne des années 70, les excès, l'amitié avec le chanteur du groupe, Lemmy, les errances, les renaissances. C'est brut, c'est drôle, c'est poignant aussi, et on sent que derrière le rock, il y a une mémoire, une tendresse, une vraie fidélité aussi. Et enfin, Arthur H, qu'on ne présente plus, mais on va le faire quand même. Arthur H, c'est trois victoires de la musique, mais c'est surtout une poésie qui groove, une voix qui rappe et qui caresse, un mystère en mouvement. Il publie La solidité du rêve, un livre co-signé avec le dessinateur Alfred, à la croisée du poème, de la chanson, du roman graphique et de la rêverie éveillée. C'est libre, beau, déconcertant parfois et profondément inspirant. Aujourd'hui dans Etc, pour la dernière de la saison, je suis heureuse de faire se rencontrer des musiciens qui écrivent et des écrivains à l'oreille musicale. Vous écoutez Etc, c'est parti.
Etc.
Catherine Cusset, Lucas Fox et Arthur H, rebonjour.
Bonjour.
On a réuni une romancière, un chanteur-poète et l'ancien batteur d'un groupe de rock mythique. Qu'est-ce que vous dites de ça, Catherine Cusset ?
Ah, c'était une surprise. Quand j'ai vu avec qui vous m'aviez invité, Lilia, j'étais ravie. J'ai pensé, voilà, on va avoir un Proust rock'n'roll. J'étais très surprise aussi parce que s'il y a un aspect de Proust dont je ne parle pas dans Ma vie avec Marcel Proust,
c'est la musique.
À ma honte, mais d'abord on ne peut pas parler de tout et c'est mon rapport personnel à Proust et c'est l'impression qu'il a laissée en moi et c'est pas... Je ne suis pas une musicienne, je n'ai jamais appris, je suis vraiment une grande ignare dans ce domaine et j'aime la musique évidemment, mais je ne pouvais pas, c'est pas quelque chose dont je pouvais parler.
Et vous aimez la musique de Marcel Proust et c'est pour ça que vous êtes là.
J'aime la musique de Marcel Proust, exactement.
Et vous portez un perfecto, donc vous êtes rock'n'roll. Lucas Fox.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes contente d'être là?
Ah oui, absolument. Et d'autant plus que, surprise quelque part, avec à côté de moi, quelqu'un qui écrit sur Proust, et quelque part, pour moi, Proust, ça me parle beaucoup. Sur la manière que moi j'ai écrit mon bouquin, c'était trigué des mémoires, via justement le même genre de Madeleine. Pour moi, c'était le parfum, c'était le goût, c'était les anciens disques que j'ai réécoutés pour plonger dans mon passé. que j'ai jamais fait avant. Et pendant 6 ans, je suis plongé dans mon passé. Voilà. Donc, absolument ravi. Et en plus, Arthur Ashe, que j'adore depuis toujours. Et,
bon, on a bien fait de vous réunir tous les trois.
Absolument, vraiment avec, heureux.
Arthur Ashe, est-ce que vous êtes passionné de Proust, vous aussi?
Passionné, c'est
ou est-ce que vous avez d'autres auteurs?
J'ai lu toute l'œuvre de Proust 4 ou 5 fois.
Non.
Non.
Vraiment.
Non, mais je suis conscient. Enfin, pour moi, les deux grands génies, vraiment, c'est génie dans le sens au-dessus, très loin au-dessus de la littérature française, c'est peut-être, enfin, Proust et Céline, dans des
styles des
assez différents.
Oui.
Le juif et l'antisémite.
Réunis.
Mais c'est vrai que j'avoue qu'il y a quelque chose de très inspirant. Donc Proust, c'est vraiment un mystère, quoi. C'est un mystère du temps, un mystère de la langue, un mystère de sa propre vie. Comment il vivait. Quelqu'un qui vivait quand même à la fois complètement dans son imagination et peut-être aussi dans la réalité subtile du monde. Peut-être que c'est la vraie réalité.
C'est ce que dit Catherine, ouais. Catherine Cusset dans son livre.
On est d'accord là-dessus.
C'est ce qu'elle dit très bien.
Ça me fait aussi absolument.
Oui.
Non, mais quelque part, je vis un peu comme ça aussi. Hein.
Bien sûr, on est rêveur.
On est rêveur et dans une certaine réalité en même temps. Quoi.
Bien sûr, un immense rêveur.
Et justement, est-ce que vous vous souvenez d'un moment où la musique et les mots se sont rencontrés pour vous, Arthur Ashe?
Moi, comme beaucoup d'adolescents, j'écoutais de la musique anglo-saxonne. Je suis arrivé après Motorhead. Et du coup, Motorhead, pour moi, c'était un peu le bloc avant. Parce que je suis arrivé avec la fin du punk.
Ah oui.
Tu vois, et puis le punk, c'était vraiment table rase du passé, en fait. Et on effaçait tout, et pourtant Motorhead c'était pas loin, mais c'était quand même le passé.
Mais justement, Motorhead Mark One, c'est ma version quand j'y étais, ouais. C'était vraiment le pont entre le progressif et le punk.
Ouais.
6 mois après nous, quoi.
J'écoutais les Doors, les Sex Pistols, Peel et tout ça, et à un moment j'étais en Corse et je suis tombé. Il y avait un bar sur la plage et un tout petit transistor, et là il y avait un vieux disque de Gainsbourg qui passait, et ça m'a vraiment fait un choc. Je suis tombé vraiment en arrêt devant tel un chien de chasse, c'est-à-dire que tous les poils dressés, parce que ça m'a frappé l'esprit comme ça d'insolence, en fait, qui me plaisait tellement dans la musique anglo-saxonne, anglaise, américaine. Tout d'un coup, je l'ai entendu en français avec une langue qui était celle de mes poètes préférés aussi, de Baudelaire, les surréalistes et tout ça. J'avais 19 ans, j'avais aucun intérêt pour la chanson française, je connaissais celle de mon père, évidemment, mais c'était trop proche. Et là, ça m'a créé un déclic extraordinaire, je me dis, en fait, la musique que je peux la faire en français, grâce à
Serge Gainsbourg.
À l'écriture de Gainsbourg. Oui.
Catherine Cusset, quand je disais que Proust était un musicien des mots,
J'avais envie de répondre à votre première question, Lilia. Le moment important musical, parce qu'on en a tous.
Le pont entre littérature et musique. Pour vous, qu'est-ce que c'est?
En fait, je cherchais tout à coup dans mon esprit, j'ai plein de moments qui me sont revenus. Et je vais juste parler d'un moment particulier, parce que pour moi, c'est peut-être quelque part ce qui est un peu à l'origine de l'écriture, parce que je mets à l'origine de l'écriture l'émotion la plus forte qui soit. Et quand j'avais 19 ans, ma grand-mère m'a invitée au festival de Salzbourg, qui est un festival donc, de musique classique. Je n'avais pas du tout l'habitude, enfin je n'ai jamais allé à un endroit pareil, c'était extraordinaire. Et un jour, un concert donc où chantait un baryton, je pense, et je me rappelle cette chanson, ma mémoire est vraiment fragmentaire, mais Le Roi des Aulnes.
Ah, c'est magnifique, Le Roi des Aulnes.
Et c'était 6 mois après la mort de mon neveu, qui est un bébé qui est mort à 4 mois. Et pour moi, cette chanson incarnait l'émotion la plus forte qui soit. Enfin, je me rappelle que j'ai eu le sentiment que les vannes s'ouvraient, je ne pouvais absolument pas m'arrêter de pleurer. Et je crois que, vraiment, ce que je recherche dans la littérature, comme lectrice ou comme écrivaine, c'est vraiment ce moment d'ouverture qui peut venir de la musique, mais qui, espérons-le, peut venir aussi de l'écriture, et qui est ce moment où on a accès à nos émotions, à nos sentiments les plus forts, les plus intenses, qui en général ont à voir avec la vie, la mort, la souffrance.
Catherine Cusset, Arthur Ashe, Lucas Fox, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour évoquer la question du style, une question qui parcourt vos livres, mais d'abord on écoute SCH 2000.
Je suis né avant les années 2000. Je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mois. Dehors c'est la pluie, je m'en fous. Ce week-end, je vais au Costa Rica. Réunion, je traite les millions avec ma gueule de smica. Amis pris pour que nous le restions. Pas d'ingestion, des émotions, c'est pas la question. Mais tu réponds aux questions par des questions. On crie jamais famine, on se débrouille comme d'hab. On t'info 3, 8, on dit loup, on acte. On crie jamais à l'aide, on fait avec et puis t'en aide, on s'en tape. J'vois mes cicatrices comme des forces, pas comme un handicap. Et j'bois ce whisky sans glace. J'suis né avant les années 2000. J'veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. J'pense à décembre, j'pense à avril. J'ai la libé avant le mobile. Les années 2000. J'veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. J'pense à décembre, j'pense à avril. J'ai la libé avant le mobile. J'ai connu le franc, j'ai connu le faux. Le daron dans la cadette 16. Dans un futal en velours. À siphonner des poids lourds. Le crissement du tourne-disque sur le vinyle des G-Duff. Le crissement du VR6 sur le poste avec un prix classe. La crâne est bien, défile sous mes yeux dans le tramway. Maman vend ses bijoux chez la tante. Quelques poubelles vont cramer. Mon reflet dans une fac de pisse. J'fais des sourires au camé. J'rêve de quartier, bois, j'rêve de palais. Comme les damnés. Les années 2000. J'veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. J'pense à décembre, j'pense à avril. J'ai la libé avant le mois. Les années 2000. J'veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. J'pense à décembre, j'pense à avril. J'ai la libé avant le mois. Les années 2000, je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mobile.
Vous écoutez Etc. spécial fête de la musique et nous sommes toujours en compagnie de trois artistes, le chanteur-conteur Arthur H, l'ex-batteur légendaire du groupe Motorhead Lucas Fox et la romancière proustienne Catherine Cusset. Lucas Fox, quand est-ce que les mots et la musique se sont rencontrés pour vous? Je vous pose la même question qu'à vos petits camarades.
Avec grand plaisir. Pour moi c'est Amsterdam, Port d'Amsterdam, les deux versions. Version française et aussi la version de Bowie, qui est hallucinant dans une belle traduction. Là-dessus aussi, Dutronc avec 5 heures du matin, Paris s'éveille. Et ces deux chansons-là m'ont vraiment ouvert l'appétit pour la chanson française. J'étais au lycée français de Londres, donc depuis l'âge de 4 ans jusqu'à la terminale. On était un peu baigné là-dedans, mais c'était Swinging London à l'époque, donc les années 60, et on supposait que c'était normal de voir le Who ou les Stones dans la rue, quoi. Donc, quand t'es môme, tu supposes que tout est normal. Donc, rencontrer ces gens-là, juste comme ça, dans la rue...
Catherine Cusset, on va reparler de Proust. Chez Proust, la musique est partout, je le disais tout à l'heure. Au cœur de la relation amoureuse entre Swann et Odette, il y a une musique, la sonate de Vinteuil, dont Proust dit qu'elle résonne comme l'hymne national de leur amour. Je trouve ça très beau. Est-ce qu'il faut être un peu musicien pour aimer Proust, selon vous?
Alors, moi je ne le suis pas du tout, hein. Vous l'avez compris.
Oui, je sais.
Vraiment pas,
ça, je pose la question.
À mon chagrin d'ailleurs. Mais j'aurais énormément aimé apprendre le piano, un instrument de musique. Enfin...
Être musicien, ce n'est pas forcément jouer d'un instrument.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais je ne sais pas, je suis plutôt abonnée, j'adore la musique, mais je suis plutôt abonnée au silence. C'est fou mais ça à dire, mais pour moi la musique implique une écoute, une attention, je ne peux pas le faire en même temps. Et c'est vrai que voilà. Cette sonate de Vinteuil, c'est vrai que vous en parlez, parce que comme la musique, le chant la musique d'Odette et de Swann. Moi, ce qu'elle m'évoque, la sonate de Vinteuil, elle m'évoque cette phrase, évidemment, cette phrase dont Proust parle de façon extrêmement détaillée et si belle, et qui est la raison pour laquelle Swann croit à une réalité d'ordre supérieur, enfin, qui serait celle de l'art, quoiqu'il n'arrive pas à, il n'est pas un créateur, contrairement au narrateur, il n'a pas réussi. Mais c'est cette petite phrase de la sonate de Vinteuil qui, à chaque fois, vient lui rappeler qu'il existe peut-être autre chose. Et finalement, toute la recherche n'est que le déploiement de cette autre chose. Hein, ce que va nous dire, ce que nous dit Proust, on dit que c'est le roman d'une vocation à la recherche du temps perdu. Au début, à un moment, c'est pas un moment de musique, mais c'est pour moi la même chose. Le narrateur se décrit enfant devant, il a dû avoir une douzaine d'années, et il est devant un rayon de soleil qui se reflète dans une mare. Enfin, il y a une scène extrêmement belle qui fait comme un pâle sourire.
C'est magnifique.
Et c'est tellement beau. Il prend un bâton et commence à battre des feuilles en criant zut, 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 zut. Et c'est sa façon d'exprimer son émerveillement devant la beauté. Et dire l'émerveillement devant la beauté en mots, eh bien, ce n'est pas simple. Hein. Ça a pris 7000 pages à Marcel Proust. Et pour moi, voilà, à la recherche du temps perdu, c'est l'expression, le déploiement de ce zut, zut, zut qu'il crie enfant.
Arthur H., l'émerveillement devant la beauté, c'est une quête chez vous aussi?
Oui, devant la vie, parce que c'est vrai que la vie, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, moi, philosophie, c'est que je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que c'est la vie. Par contre, je sais que je suis dedans avec vous tous, nous tous. Donc l'émerveillement, il naît souvent dans la solitude, ouais, souvent dans la solitude, la plupart du temps même, je dirais. Parce que sinon, je suis un peu, un peu contraint par les relations sociales, qui sont super aussi, mais qui ne te permettent pas d'accéder vraiment... ce sentiment de joie pure, de joie très très puissante.
Proust est d'accord. Hein.
Ouais, et c'est vrai que je trouve ça malheureux en fait, parce que on a accès à ces sentiments quasiment que dans la solitude.
Oui. Ça me plaît ce que
mais
vous dites.
Mais dans la solitude, par contre, ça arrive très souvent.
Ça me plaît d'autant plus qu'on a avec nous Lucas Fox, qui a quand même fait partie d'un groupe. Vous pouvez pas cautionner ce que dit Arthur H.
Pour moi, quelque part, oui, solitude, bien sûr, parce que je suis un solitaire, peut-être, comme vous deux. Mais aussi, c'est se renouer avec son enfant, qui est moi, mon enfant. Et j'ai eu cette expérience magnifique d'avoir un rêve en plein milieu de l'écriture, de voir un long tunnel, et à l'autre bout, il y avait un enfant que je reconnais, c'est moi. Et je lui ai tendu la main, et j'ai pris sa main, et je l'ai pris dans mes bras, et je lui ai dit, j'ai besoin que tu sois avec moi dans tout le parcours de ma vie. Et depuis, on est devenus amis, et à chaque fois, je deviens cet enfant, ouais. 7, 8, 10 ans.
Donc vous n'êtes jamais seul, en fait.
Quelque part, on est deux à vivre ma vie, quelque part.
Et c'est vrai que c'est un sacré truc, parce qu'un enfant, par exemple, n'a pas peur de montrer ses émotions très fortes.
C'est ça.
Comme ça, pour lui, il a pas de blocage, quoi. Et nous, on a quand même plus du mal à nous montrer, nous dévoiler tel qu'on est vraiment. Socialement, c'est compliqué, quoi. Alors que la solitude, c'est bien, parce qu'elle te permet une grande liberté, en fait, d'être soi, complètement. Pour des émotions intenses. Hein.
On est d'accord.
Parce que moi, je fais de la musique aussi en groupe.
Oui, bien sûr.
Et là, c'est très, très joyeux. C'est génial de faire de la musique en groupe. T'es connecté... télépathiquement, très puissante, avec le public aussi. Enfin, c'est magnifique, mais c'est pas aussi libéré. Tu vois, il y a beaucoup de contraintes. Ouais. Tu joues avec les contraintes et tu peux élever le niveau de contrainte. Par contre, le sentiment le plus pur, le plus intense, il est malheureusement seul, quoi.
Mais vous n'avez jamais pensé écrire un roman, Arthur H? Vous qui aimez la solitude et la création dans la solitude.
Si, bah j'ai retranscrit la fugue de ma mère, ça s'appelle Fugue, c'est une histoire extraordinaire, je parle beaucoup de musique dedans. Oui, j'aime beaucoup écrire. Ben, c'est pareil, écrire, on est tout seul. Et là, moi, quand j'ai écrit, j'ai pleuré aussi, parce que j'étais tout seul, bien sûr.
Il y a une question qu'on retrouve chez vous trois, c'est la question du style. J'aimerais qu'on en parle, car Lucas Fox, vous revendiquez un refus des normes et du formatage. Vous écrivez à un moment dans votre livre « La musique, ce n'est pas une compétition. Ce que j'admire, c'est le style unique de chaque artiste. » Est-ce que vous trouvez que la musique actuelle est trop formatée ?
Oui, absolument. Et là-dessus, je revendique plus largement que la musique, mais tous les arts pour moi. Tous les arts, c'est impossible de comparer Beethoven à Hendrix ou Picasso à Rubens. Pour moi, chaque artiste vit dans sa bulle et doit vivre dans sa bulle comme excentrique, personnalisé. Et je trouve que tout le monde est beaucoup, beaucoup trop dans l'influence, dans quelque part dans le camp d'Iraton. Et je refuse ça, mais complètement, parce que ce que j'admire et ce que j'adore, c'est les personnes qui sont devenues de plus en plus eux-mêmes, et donc excentriques. Et c'est typiquement britannique comme attitude, je sais. Mais quelque part, si on peut juste virer ce qu'en dira-t-on, qu'est-ce que les autres penseraient de ça ou ceci, mais dans la mode, dans la musique, dans l'art, dans la photographie, dans tout. Et on est dans un genre de situation à présent. Et je pense que c'est cyclique. Hein. Je pense qu'un Nirvana va bientôt arriver, ou un Bob Marley qui va bientôt arriver, et va balayer tout le monde, et ça va repartir comme l'an 40.
Sur cette question du formatage, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre livre, Catherine Pucet. Et je demanderai à Lucas Fox et Arthur H. ce qu'ils en pensent ensuite. Passage sur la liberté d'écriture.
Je partage totalement l'idée proustienne selon laquelle l'écrivain n'est pas libre d'écrire ce qu'il veut, mais doit découvrir l'œuvre en lui. L'impression est un mot essentiel. Ce qui s'est imprimé en nous et qui ressurgit par la mémoire involontaire est propre à chacun. C'est ce qu'il y a de plus singulier, de plus vrai, de moins influencé par les autres et par l'époque. Et c'est là, nous dit Proust, que se trouve le seul livre qui compte, unique à chacun, ce qu'il appelle le livre intérieur.
Ça rejoint ce que venait de dire Lucas Fox.
Oui, tout à fait. Quand j'écoutais Lucas Fox, je pensais à deux choses. Bon, à cette idée, en effet, que l'art est la seule façon d'avoir accès à la manière dont le monde, à la façon singulière dont le monde apparaît à l'autre. Hein, cette phrase chez Proust, s'il n'y avait pas l'art, la façon différente dont nous apparaît le monde resterait le secret éternel de chacun.
Oh, I like it.
Donc vraiment cette idée-là qui est essentielle de la singularité. Cette idée du livre intérieur qui surgit par la mémoire involontaire. En fait, Proust méfie beaucoup de la mémoire volontaire, c'est-à-dire la mémoire intellectuelle. Quand vous regardez un album photo, vous n'avez pas du tout accès au passé, en fait. Vous voyez des images complètement figées. Et comme on en parlait tout à l'heure, comment a surgi la mémoire ? Eh bien, on ne sait pas. Précisément parce que c'est involontaire. Et tout à coup, quelque chose du passé réapparaît. Ça peut être à travers un parfum. Vous disiez, Lucas, ça peut être... Souvent, c'est quand même à travers une musique. En tout cas, c'est par les sens. Et à ce moment-là, le passé vient se mêler au moment présent où vous éprouvez la sensation. C'est vraiment ça, l'expérience de la Madeleine, chez Proust. Et c'est le moment où l'être humain retrouve une connexion avec ses mois morts, avec son passé mort, avec cette personne qu'il a été. Vous parliez de l'enfant, évidemment. Et c'est le moment où il sort du temps qui détruit tout. En fait, c'est le seul moment où on peut accéder à l'éternité. Alors, c'est un moment très éphémère, qui a lieu pendant quelques secondes, une minute au plus. Et l'œuvre d'art, que ce soit la musique, l'écriture, vise à recréer ce moment-là, à rendre ce moment-là communicable aux autres.
Il y a un autre moment où on a accès à son être intérieur, c'est le rêve, Arthur H.
Oui, mais je pense que ces sujets, finalement, vont devenir très, très essentiel. Ils le sont déjà, mais ils vont devenir de plus en plus...
ChatGPT.
À cause de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, c'est aussi le miroir, en fait, le reflet de notre cerveau collectif. Il y a quand même un cerveau collectif à la Jung, quoi, mais qui existe. Et là, qui va être très formaté, parce que l'intelligence artificielle, elle va prendre vraiment une place extraordinaire. Et elle ne fait que recycler. Elle peut pas ce qui existe déjà, donc elle peut pas inventer ni Motörhead, ni Proust, ni Arthur H.
Elle peut pas inventer une singularité.
Artiste. Et je pense que comme on est des animaux spirituels et qu'on a aussi conscience du danger qui est là, on va devoir prendre position plus fortement sur la fragilité. Et moi, c'est marrant parce que je me suis aperçu que je le faisais avec mes amis en ce moment. J'ai fait 3-4 spectacles comme ça, où on a tous décidé ensemble, quasiment de l'improviser en fait. On n'avait pas peur de l'improviser. Moi, j'ai dit...
Lucas Fox approuve.
J'ai fait une introduction, j'ai dit attention, ce spectacle, il est extrêmement fragile. Voilà, il y a beaucoup d'improvisation, mais c'est ça que je cherche. Et ça me met totalement dans l'instant et dans la rêverie. Dans la rêverie, mais très consciente, très, très présente, et avec d'autres personnes, en train d'inventer quelque chose sur le moment, d'organique.
Oui, c'est peut-être l'avenir du spectacle vivant, c'est ça.
Voilà, et qui échappe du coup au formatage, et qui est complètement dans cette rêverie très proustienne de s'abandonner, et de ressentir les choses, ressentir les couches de choses, être en contact avec plein de dimensions différentes, de l'imaginaire des gens, de son propre imaginaire qu'on est en train de créer sur le moment. Et ça, c'est so human. Il n'y a que nous qui pouvons faire ça. La machine peut reproduire ça, mais de manière tellement nulle.
Artificielle, finalement.
Elle va pousser la société vers ce qu'elle fait déjà, vers une forme de fascisme politique, médiatique, technologique. Et le fascisme, c'est le désir de faire disparaître toutes les voix dissonantes, toutes les voix personnelles. Oui. Je t'envoie ça en goulag, je t'envoie ça en prison, je te le fais disparaître, je te coupe le son, quoi. C'est ça qui va arriver. Donc plus ça arrive, et plus nous, on va devoir lutter par des outils...
C'est ce que j'allais vous demander, comment on lutte contre ça?
Par le fait de se rendre compte il n'y a pas de mots pour le décrire, ce qu'est le potentiel humain.
Catherine, tu sais comment, parce que vous en parlez.
De la rêverie, de l'imagination, de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut être, il n'y a pas de mots, c'est infini.
Alors déjà, je trouve en fait Arthur Ashe merveilleusement optimiste.
Ah bon?
Vous n'êtes pas surpris? Moi, je suis aussi.
Il a quand même parlé de fascisme.
Je l'écoute, ça me redonne de l'espoir. Parce que c'est vraiment ça la question. C'est est-ce que l'intelligence artificielle... Vous parlez de formatage, en fait. Et c'est toute la question. Est-ce que la créativité va être possible? Est-ce que la singularité va être possible du côté de l'intelligence artificielle? Moi, j'ose, vous savez, je connais pas grand-chose. J'ose croire que non, mais finalement, je ne connais pas vraiment et je ne sais pas. Ou est-ce que tout simplement l'esprit humain va être tellement formaté qu'il ne recherchera plus la singularité. Bah oui. En tout cas, Proust se pose un peu en effet cette question-là, parce que ce qu'il appelle l'impression, ce qui s'inscrit en nous, ce qui pour moi est essentiel. Une machine ne peut pas... Ben si, on inscrit beaucoup de choses dans une machine, mais l'impression, c'est vraiment... c'est une histoire, c'est votre histoire. Vos impressions, elles sont vraiment propres à vous. Il les oppose aux expressions toutes faites. C'est d'ailleurs le formatage, c'est l'expression toute faite.
Premier formatage, c'est la langue.
Oui, ça, les phrases clichés.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la langue de Proust, qu'on peut croire, qu'on a pu croire extrêmement recherchée, travaillée, chichiteuse, inutilement compliquée, enfin, etc., ça n'est pas du tout ça. Et Proust, bon, il a une phrase longue, hein, mais il a une phrase longue à son époque aussi. Hein. À son époque, elle est vraiment très très longue, la phrase. Les gens s'en moquent, disent qu'on se prend les pieds dedans. Mais en réalité, il écrit exactement comme il parle et comme il pense.
Et comme il ressent.
Et comme il ressent. Et je pense à ça parce que j'ai entendu votre émission à Lilia Hassen avec Pierre Michon. Et justement, il parlait du style. Pierre Michon disait, mais non, le style, ça n'existe pas. Le style, c'est juste... c'est comment ce qu'on a à dire ressort, finalement. Et vous disiez, mais donc ça ne doit pas être artificiel, c'est naturel. Et en fait, c'est juste l'expression d'une pensée. Et ce n'est pas simple d'exprimer. Ce n'est pas simple de faire émerger dans les mots...
Oui, de ne pas se raccrocher à quelque chose de connu.
C'est extrêmement difficile. D'où la phrase proustienne qui va au bout de ça, en fait.
Catherine, tu sais, Lucas Fox, Arthur Ashe, on reçoit chaque semaine dans l'émission des libraires du monde francophone. Ils vous ont lu et j'aimerais qu'on commence par vous, Catherine Cusset. Audrey Martel de la librairie L'Exèdre à Trois-Rivières au Canada partage votre passion pour Proust. Bonjour Audrey.
Bonjour. Bonjour Catherine. Partage la passion pour Proust, mais je suis peut-être pas prête à écrire un livre sur l'auteur.
Vous vouliez quand même remercier Catherine Cusset.
Oui, c'est ça. Dans votre livre, Catherine Cusset, vous dites que Proust est le clinicien de l'amour. Je me rappelle avoir relu le premier tome récemment de La Recherche durant une période amoureuse un peu plus difficile. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être soignée par les phrases de l'auteur qui, plus de 100 ans plus tôt, mettait les mots exacts sur mon état. Vous lire m'a donc replongé dans ce souvenir, dans ce moment merveilleux que permet la littérature où l'on se reconnaît, où l'on se découvre dans un texte pourtant en apparence si loin de nous. Et je voulais vraiment vous remercier pour ça.
J'espère que vous remerciez Proust surtout.
Merci
les deux, les deux. Travail d'équipe.
Merci Travail d'équipe.
Par ailleurs, vous nous donnez non seulement envie de lire ou relire Proust, mais je crois que vous nous donnez des outils pour mieux le comprendre, mieux le lire. D'écrire Proust comme un auteur du vrai qui se sacrifie afin de mieux analyser le monde qu'il admire m'a donné une toute autre vision de l'auteur et ça m'a plu beaucoup. Vous faites notamment référence au fait qu'il se soit coupé du monde pour écrire et qu'il se soit même laissé dépérir. Avant de vous interroger, les grands écrivains sont-ils ceux qui se consument pour leur œuvre, qui en meurent? Et donc, je voulais vous demander, est-ce que vous avez trouvé la réponse à cette question, Catherine Cusset?
Alors, ça c'était un petit peu une boutade, parce que je demande dans mon introduction, donc si on me donnait le choix entre mourir d'asthme maintenant, mourir à 50 ans, je dis non, moi je reste Catherine Cusset, désolée, et je mourrai quand je mourrai, mais je ne suis pas pressée. Mais je suis très sensible à ce que vous dites, je suis très très heureuse en fait que vous... Enfin, c'est exactement comme ça que je lis Proust, c'est-à-dire comme un auteur qui nous parle de nous aujourd'hui, sur tous les plans, et d'abord ce que vous dites de l'amour, non pas du tout un romantique, mais quelqu'un qui analyse, qui décrit nos symptômes et qui dit qu'en fait l'amour a très peu à voir avec la beauté et les charmes d'une personne, mais beaucoup plus avec une phrase comme « Non, je ne serai pas libre ce soir », donc avec nos névroses, avec nos névroses, avec l'absence, avec l'impossibilité de posséder, donc toutes ces idées dont je me suis moi-même un peu éloignée, je dois dire, à l'âge adulte. Mais ce que vous dites aussi, j'ai beaucoup aimé que vous disiez que cette idée du sacrifice, pas seulement d'ailleurs parce que à la fin de sa vie, il s'enferme pendant 15 ans pour écrire son œuvre, mais plutôt parce que il n'hésite pas à se montrer comme quelqu'un de snob, de vain, de superficiel, dont que la seule chose qui l'intéresse, semble-t-il, à un moment de sa vie, c'est la mondanité. Il n'hésite pas à se mettre en scène de façon assez défavorable, parce que ce qui l'intéresse, c'est pas de parler de lui en fait, hein, du tout. C'est de parler de l'être humain. C'est de parler de nous, de notre snobisme, de notre vanité, de notre désir d'être dans le monde, de notre rapport à l'autre. Il se prend que pour exemple, il prend aussi beaucoup d'autres exemples, mais il dit vraiment la totalité de l'être humain. Et voilà. J'ai vraiment l'impression que vous l'avez lu comme je l'ai lu moi, et je vous remercie pour votre lecture qui me fait vraiment un grand plaisir.
Merci Audrey.
Merci. Merci beaucoup.
C'est intéressant, Lucas Fox, cette dimension sacrificielle dans le domaine artistique, les artistes qui s'abîment. Est-ce que vous avez vous-même assisté à ça?
Oui, absolument. Et même, j'ai fait moi-même l'expérience quelque part de l'auto-abus, dans le sens que dans les années 60-70, tout le monde prenait beaucoup de drogue, et moi aussi. Quelque part, c'est en passant par ça qu'on atteint quelque chose d'autre aussi. Et je reviens sur...
On ne fait pas la promotion de la drogue ici.
Absolument pas, absolument pas. Non mais bien le contraire, justement, je n'ai pas voulu éviter ce sujet dans mon bouquin, je voulais justement plonger dedans pour qu'on puisse voir qu'on peut vraiment devenir terriblement accro et s'en sortir de l'autre côté avec beaucoup de dégâts. Et donc je n'ai pas voulu justement éviter de parler des dégâts qui m'était fait à moi-même. Je voulais justement parler de ça. Mais une chose que j'étais intéressé, c'était que Catherine disait que c'est très éphémère, cette histoire de pouvoir plonger dans un capsule mémoire. Et pour moi, non. Justement, j'ai fait l'expérimentation pendant 6 ans avec ce bouquin, de justement triguer, comme on disait tout à l'heure, des mémoires, et rester rester figé, non, même pas figé, revivre ces moments, et pouvoir revivre et décrire ce moment comme si vous y étiez. Et tout mon propos d'écrire ce bouquin, c'était faire dans ce sens-là, de insérer vous, les lectrices et les lecteurs, dans ma tête, avec toutes mes émotions, avec toute ma sensibilité, pour revivre ça. Et j'ai fait justement beaucoup dans le rêve, beaucoup j'avais toujours mon téléphone à côté de moi en dormant, et je me réveillais à 2-3 heures du matin et je dictais des choses. Au début, j'écrivais à la main et j'arrivais pas plus à lire ce que j'avais écrit, donc c'était nul. Et après ça, j'ai pris mon téléphone et j'ai dicté plein, et plein de chapitres sont venus de là. Et même des chansons d'ailleurs.
Lucas Fox, vous me faites une transition parfaite. Dans quelques instants, on entrera dans vos livres à tous les deux, Arthur H. et Lucas Fox, et on abordera notamment une grande question proustienne, Catherine Cusset, la question de la mémoire.
« regardez-la danser. Quand elle s'approche du ring, la boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse, sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur, et de sang, et de sang. Qu'elle se relève, un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres.
Écoutez, etc. Spéciale fête de la musique. C'était Arthur H., la boxeuse amoureuse, que c'est beau. Et nous sommes toujours en compagnie d'Arthur H. lui-même, de la romancière Catherine Cusset et d'un musicien amoureux des mots, Lucas Fox.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassen.
Lucas Fox, vous êtes musicien, batteur et vous venez donc de publier votre autobiographie. Ce texte, il a convaincu nos libraires qui ont relevé la qualité de votre plume. Parmi eux, Mac Vienno, notre libraire québécois, qui n'est pas forcément métalleux, mais qui est un excellent lecteur. Bonjour Mike.
Allô.
Bon, je vous laisse la parole.
Bonjour Lucas Fox. Bonjour. C'est vrai que le gros rock lourd et bruyant, c'est pas trop mon truc a priori, mais voilà, je me suis laissé prendre. J'ai lu avec fascination votre aventure, les débuts, la rencontre avec Lémy, le chanteur du groupe, mais surtout ce constant respect, cette humanité, cette fraternité qui vous a perduré, qui a perduré entre vous jusqu'à sa mort. Et disons-le, si vous jouez franchement bien de la batterie, troquer les baguettes pour le crayon est un geste vraiment réussi. Vous avez un sens du rythme pour raconter cette aventure métalleuse et je me suis dit en cours de lecture que c'était bien normal. Vous alternez entre votre récit personnel et celui de Lémy. Vous battez à gauche, à droite, coup de cymbale, rythme effréné pour réunir les deux parcours dans une histoire commune. Amoureux de la percussion, vous percutez tout autant par votre écriture, c'est dense, c'est chargé, comme un solo de batterie. Il y a tellement de lieux nommés, tellement de gens cités, mais jamais je n'ai senti une prétention ou une rancœur. Vous jouez avec votre mémoire d'une manière franche et intègre.
C'est un beau compliment, ça, franc et intègre, Lucas Fox.
Merci beaucoup, ça me touche.
Et Mac, vous aviez une question pour Lucas Fox.
Oui, je voulais dire qu'au-delà de l'écriture, c'est un livre qui pourrait vraiment plaire aux passionnés de cet âge d'or du rock, car vous savez très bien raconter l'histoire de ce Swinging London qui a vu naître tant de musique et de rivalité. Vous étiez et resterez Motorhead, et vous savez écrire sur le rock'n'roll. Mais justement, je me suis demandé, écrire sur cette aventure fascinante a dû vous demander beaucoup d'introspection. Donc, est-ce que raconter cette période riche vous a calmé par rapport à certains regrets, ou est-ce qu'au contraire, ça a provoqué en vous une nostalgie des moments inachevés?
Déjà, le mot regret, je ne reconnais pas. C'est pas mon truc, j'ai toujours foncé par avant. Donc, côté regret, non. Oui, c'était très émotionnel de replonger dans ce passé, mais aussi les années Swinging London, c'était quand même la renaissance, peut-être la seconde renaissance de l'histoire, après tout ce qui était la Seconde Guerre mondiale et les années 50 qui étaient en noir et blanc, tout d'un coup l'explosion de couleurs de tout ce qui était photographie, musique, art, mode, etc. Et une explosion de couleurs et des créations qu'on n'a jamais vues, d'après moi, même la Renaissance. Et aussi une histoire que les classes sociales se sont effondrées. Et on se retrouve avec des personnes qui venaient de la classe ouvrière, qui étaient des absolument génies de la musique, et pas seulement de la musique, la photographie, David Bailey, etc. Donc pour moi, cette explosion, non, c'était magnifique de le vivre, mais à l'époque, étant donné que quand on est gosse, on suppose que tout est normal, et donc on accepte tout ce qui passe. C'est seulement avec le recul qu'on commence à rendre compte à quel point cette période nous a marqué
tous. C'était des belles années, oui.
Et qui continue à nous marquer. Les influences sont encore là. Mais ça répond un peu à la question ou pas?
Ça répond très bien à la question.
Mike, merci. Vous restez avec nous car vous avez aussi lu le livre d'Arthur Ashe. Mais avant ça, Catherine Cusset, puisqu'il est question de mémoire ici à travers l'autobiographie, j'aimerais que vous nous lisiez un autre passage de votre livre.
Alors, écrire, c'est cela pour moi. Rentrer dans l'épaisseur fugitive de ce temps disparu, y descendre, retrouver celle qu'on fut et qui n'existe plus, qu'on entrevoit comme une ombre évanescente derrière le miroir. Cette fille-là qui fut moi. Ce qu'on désire atteindre, ce n'est pas juste soi, c'est le temps, c'est le vivant, c'est la sensation disparue.
On parle là d'écriture qui ramène à un passé enfoui, ce goût pour l'autobiographie. Est-ce à dire qu'on écrit toujours à partir ou plutôt vers son enfance, Catherine Cusset?
Alors, ça dépend, hein, pas toujours. Ça dépend quelle écriture, mais c'est vrai que ça me rassure. Moi, je rends grâce à Proust dans mon livre « Ma vie avec Marcel Proust ». Il me remonte le moral dans les moments de doute, dans les moments où je me dis « mais vraiment, c'est pas possible, je sais pas, il faudrait que je sois plus branchée sur l'époque, ou je ne sais pas, il se passe des choses tellement horribles dans le monde ». Et Proust vient vous dire « non, il faut écrire ce livre intérieur, il n'y a pas besoin d'inventer pour écrire un livre, il faut sentir ». Il faut sentir, il faut écouter, il faut être à la recherche de la sensation perdue. Et c'est vrai que je vois l'écriture comme un exercice de voyance, un peu d'ailleurs comme le décrivait tout à l'heure, Lucas Fox. Et vraiment, c'est entrer dans une épaisseur de temps, c'est sortir du temps courant, en fait, pour rechercher quelque chose qui est de l'ordre du vivant. Ce qui meurt, enfin voilà, nous cessons de mourir, le passé ne cesse d'être le passé. Et tout à coup, l'écriture nous permet de nous reconnecter. Et c'est comme ça que je conçois l'écriture.
Arthur Ashe, vous en pensez quoi?
Quand j'ai écrit Fugue, effectivement, c'était vraiment exactement ce que vous avez dit là, Catherine, c'était exactement ça, ouais. Plonger dans le passé. Il y a toujours cette histoire de refuge. Qu'est-ce qui transcende le temps? Qu'est-ce qui transcende l'époque? Et la vie intérieure, bien sûr. La vie intérieure, elle est toujours libre. Toujours.
Arthur Ashe, Lucas Fox, Catherine Cusset, on se retrouve dans quelques instants pour parler de votre bande dessinée, Arthur Ashe. Mais avant ça, on écoute Iliona, Lâche-moi la main.
Ça ferait rien de te voir dans c'était juste de passage. De toute façon, c'est pas comme si je t'aimais, genre grandiose. J'ai compté toute la journée les insultes que je dirais jamais. Si les gens se montent souvent, je me demande comment t'étais avant moi. Je passe mes nuits à regarder des gens danser sans se manquer. Mais je passe ma vie à réparer mon cœur, mon cœur. Je m'ennuie, je veux plus écrire sur toi. C'est ce qu'on n'est pas. Parfois je me demande ce qu'on gardera de tout ça. Parfois je te mens ou je te dis tu me manques. Et c'est triste. On se tire par le bras, on se pique et ça peut pas être un poids. Parfois je me demande ce qu'on gardera de tout ça. Parfois tu
Bienvenue dans l'émission Etc. spéciale Fête de la musique. Nous sommes toujours en compagnie de la romancière Catherine Cusset et des musiciens Lucas Fox et Arthur H.
Etc. Lilia Hassen.
Et notre libraire québécois Mike Viennot est toujours avec nous. Mike, vous êtes fan d'Arthur H. et vous avez pris beaucoup de plaisir à lire la bande dessinée La solidité du rêve.
Ah oui, et même, je ne sais pas si je dois parler en termes simples ou usés de poésie. J'ai tellement écouté la musique et les paroles d'Arthur H. que je me suis immédiatement retrouvé en terrain connu. Ou plutôt dans le même rêve, dans le même espace poétique, dans le même tourbillon onirique. Quelle belle aventure que cette rencontre entre le dessinateur délicat et le chanteur éthéré. La douceur des cases et la finesse des lignes viennent se lier à l'explosion des mots et l'extravagance des images. C'est un voyage dans un espace parallèle qui rappelle que les arts sont toujours en fusion et que les paroles de l'un engendrent les images de l'autre.
Et donc, on pensait connaître Arthur H. par ses chansons, mais on découvre Arthur H. avec son coup de crayon. Et justement, j'aimerais que vous nous expliquiez précisément ce qu'on trouve dans cet ouvrage pour nos auditeurs.
Alors, C'est une bande dessinée, mais c'est plus qu'une bande dessinée. C'est une aventure onirique qui intègre les personnages des chansons d'Arthur Ashe. Il y a Éléonore et Léonard, Lily Dale, le Baron Noir et enfin Marouchka. Pour ceux qui connaissent mon fantasme musical, cette Marouchka qui prend vie et forme dans le livre, cette lumière de minuit, cette lumineuse image dans une case flamboyante, magistrale. C'est souvent difficile de mettre des mots sur certaines images poétiques et parfois encore plus ardu de mettre en image les mots débridés d'un chanteur exalté, mais cette fois, j'ai senti une communion, une compréhension entre celui qui met en image et celui qui fabrique les paroles. Une communion ou une communication, car comme le dit si bien le personnage d'Arthur Ashe dans la BD, savoir se perdre est bien plus amusant que trouver son chemin. Cette fois-ci, Arthur Ashe, désolé de vous reprendre, mais à deux, vous avez trouvé une route sur laquelle vous ne vous êtes pas du tout égaré. Sinon dans les rêves, sinon dans les arts. J'ai lu, j'ai regardé, j'ai rêvé. D'ailleurs, désolé, pardonnez-moi, je dois vous laisser pour retourner dans votre livre, revivre vos paroles, ressentir votre dessin et moi aussi m'alanguir dans la solidité du rêve.
Merci Mike, ça fait plaisir Arthur Ashe, autant d'enthousiasme.
Ah oui, 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 merci beaucoup, c'est chouette.
Bienvenue.
Savoir se perdre est bien plus amusant que trouver son chemin.
Bah, trouver son chemin, c'est pas mal aussi, quand même. Mais se perdre dans son chemin, après, bon, c'est infini, ce genre de phrase. Mais se perdre, c'est plus amusant, effectivement, quand une image t'apparaît, comme ça, quand tu découvres quelque chose qui apparaît devant toi. En tout cas, moi, c'est le cas quand j'écris des chansons. C'est pas du tout... À part des fois, j'ai un mot, vaguement, une image, une idée, mais littéralement, la chanson, l'histoire, en tout cas, les personnages apparaissent devant nous. Comment ? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Mais effectivement, faut savoir se perdre. Faut connaître la technologie de l'errance pour arriver à découvrir quelque chose de... éventuellement nouveau, enfin, qui apparaît devant vous. Quoi. Pourquoi, je
sais. Une belle expression, la technologie de l'errance. Merci, Mike. Alors, avant de terminer, je voulais laisser une de nos libraires, une libraire suisse, dire un petit mot rapidement à Luca Fox, parce qu'elle y tenait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Annick Vermeaux, vous êtes là ?
Un musical bonjour de la Suisse, Lila.
bonjour Annick. Donc, je vous laisse la parole, parce que j'ai senti que vous aviez vraiment une question à poser à Luca Fox. Très important.
Oui, Luca Fox, j'ai eu un immense plaisir à dévorer votre vie exubérante et découvrir Motorhead sous un autre prisme que celui de Lemmy. Le mélange d'odeurs de cigarettes froides, de bière, les chaussures qui collent à la scène, les mains noires de crasse quand les câbles ont été tirés, les tas de gaffers du démontage, les filecasts à pousser et à trimballer. Je souhaitais surtout prendre de vos nouvelles parce que vous avez vécu la naissance du heavy metal et ses sons ultra puissants, les gros stacks d'enceintes et d'ampli. Et une question me travaille sans cesse. Comment vont vos oreilles ?
c'est très marrant.
La seule bonne question de cette émission.
Annie, c'est marrant. Beaucoup de personnes, quand ils m'ont rencontré, ils me disent à quelqu'un, j'ai rencontré Luca Fox. Et la première question, c'est, il est encore vivant ? Et la seconde question, il est sourd ? je suis encore vivant et non, je ne suis pas sourd.
Voilà, vous avez votre réponse, Annie. Vous êtes satisfaite ?
Oh, c'était surtout sur les acouphènes.
Ah oui.
Même pas. J'ai eu un flash d'intelligence qui m'est arrivé de temps en temps dans ma vie, au milieu du troisième concert de mémoire, où j'ai insisté que les roadies mettent les baffles en parallèle avec moi et pas derrière et pas devant. Et comme ça, j'ai sauvé mes oreilles.
Très, très bon réflexe. Bah, merci Annick. Merci à tous les trois d'être venus pour cette dernière émission de la saison. Catherine Cusset, vous vouliez dire un mot ?
Oui, une dernière pensée, parce que Proust a une pensée pour tout le monde. Et je repensais à ce que disait Arthur Ashe sur l'errance et la perte. Et il a cette phrase très belle, on ne reçoit pas la sagesse, il faut la découvrir soi-même après un trajet que personne ne peut faire pour nous.
Ah, j'aime bien, mais je rajouterais aussi que quelque part, se laisser vivre et s'écouter, fermer sa gueule et s'écouter, vraiment.
Ça, on en a besoin en ce moment. Oui. Bon, voilà, ce sera le mot de la fin. Catherine Cusset, Ma vie avec Proust, est publiée chez Gallimard. Et que vous soyez déjà lecteur de Proust ou pas, c'est intelligent, fin et tellement agréable à lire, comme toujours avec Catherine Cusset. Je recommande aussi La plume de Luca Fox et je tiens à dire que vous êtes souvent très drôle. Il y a une description version de voiture, une 4L à un moment, qui m'a régalée. Motorhead In and Out, c'est aux éditions hors collection. Et merci à Arthur H. pour sa bande dessinée pleine de poésie. La solidité du rêve chez Casterman, illustrée par Alfred. On y trouve cette très belle phrase proustienne, faire de la musique, c'est jouer avec le temps. Bonne fête de la musique à tous donc. Merci enfin à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Tiffany Battistel à la technique, Estelle Gab, Virginie Rouzic, Manon Grandière, ainsi qu'à nos libraires du jour, Audrey Martel, Mike Viennot et Annick Vermeau. Nous, on se retrouve à la rentrée et d'ici là, bel été à tous.